Colonel, merci. Voilà qui boucle donc la série des présentations. Je me rends compte que pour des difficultés techniques peut-être, nous n'avons pas pu, nous ne pouvons pas nous connecter avec Goma, ce qui fait que pendant 30 bonnes minutes, les journalistes de Kinshasa auront le plaisir de nous poser des questions sans que nous puissions bien sûr avoir les journalistes de Goma. Mais nous espérons éventuellement les avoir une fois que les problèmes techniques sont fixés. Je vais vous demander avant cette série de questions-réponses d'éteindre votre portable ou de le mettre sous silence. Présentez-vous le nom de votre organe, votre nom, et ensuite posez une question par journaliste. Comme ça, nous pourrons avoir le maximum de questions ici. Cela dit, nous commençons tout de suite par la droite, la gauche. Je vois une main timide derrière. Allez-y, présentez-vous.
Oui. Ma question, je l'adresse au colonel Félix Prosper Bass. Colonel, en dépit de la présence des forces onisiennes et congolaises à l'est du pays, notamment à Beni, la situation continue toujours de s'empirer. Concrètement, quelles sont les stratégies que la MONUSCO entend arrêter pour finir avec tous ces massacres? Merci.
Donc merci pour votre question. Et cette question est très intéressante dans la mesure où elle réunit en elle seule toutes les préoccupations, aussi bien des populations congolaises que des médias. Mais aussi, cette question est fondamentale pour la force de la MONUSCO, qui, comme vous le savez, a pour mission principale la protection des populations civiles. Évidemment, c'est tout à fait enrageant pour des militaires que nous sommes de voir cette récurrence de massacres commis de manière vraiment innommable par des individus dont les objectifs ne sont pas clairement définis, parce que les cibles de ces individus ne sont pas des cibles militaires, les objectifs ne sont pas militaires, c'est plutôt une forme de terreur qui est en train d'être répandue dans cette région pour dissocier justement cette confiance qui existe entre aussi bien les forces de défense et de sécurité congolaises, les populations locales, que la force de la MONUSCO. Il faut un peu peut-être, très rapidement Charles, avec ta permission, faire un peu le background de toute cette histoire-là, parce que vous le savez bien que la détermination des vaillantes forces congolaises associées à l'appui que la MONUSCO a toujours apporté à ces forces congolaises ont permis de démanteler tous les bastions qui étaient jadis occupés par l'ADF dans la région du Grand Nord, ça veut dire dans le Rwenzori, et nous avions ainsi pu capturer Nabui, Madina, Makoyoba 1, Makoyoba 2, Kamango, Mutwanga, Mwanga. Toutes ces zones ont été contrôlées, aussi bien que le pont de Sibiliki, où nous avons même établi une force, une base logistique pour permettre de recueillir tous les otages qui étaient détenus par ces éléments-là et que les FRDC étaient en train de sortir progressivement. Donc, pour vous dire que la situation était très positive. Ensuite, nous avons observé quelque chose, c'est-à-dire un mode opératoire nouveau de ces éléments. Mais il faut préciser au passage que l'ADF a été sérieusement affaibli, mais n'a jamais été neutralisé de manière définitive, parce que je l'ai toujours dit. Tant que la tête du mouvement n'est pas décapitée, nous n'avons pas encore atteint des résultats confortables. Et c'est ainsi donc que ce nouveau mode opératoire nous a permis de voir qu'aujourd'hui, aussi bien il y a une forme d'infiltration au sein des populations civiles, mais aussi les attaques qui sont menées se sont toutes déroulées dans des points assez isolés des agglomérations que nous avions l'habitude de protéger. Donc ce qui veut dire que nous avons un problème de renseignement qu'il faut forcément corriger. Ensuite, nous avons un problème de collaboration franche des populations civiles qui ne doivent pas se laisser maintenir en otage par ce mode opératoire, parce que comme nous l'avons dit, il est assez difficile de parler aux populations civiles, mais nous souhaitons toujours leur soutien parce que c'est un effort commun qui nous permettra de neutraliser l'ADF. Vous avez raison, des stratégies nouvelles sont en train d'être explorées, des coordinations beaucoup plus étroites sont en train d'être faites entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises, mais évidemment nous ne pouvons pas dévoiler en public, comme vous le savez, les stratégies qui vont très bientôt être mises en œuvre pour contenir cette vague de massacres injustifiés, gratuits et perpétrés de manière lâche contre les pauvres populations civiles de la région de Béni.
Merci colonel pour ajouter à cette question et donner un peu plus d'emphase à ce que le colonel disait tout à l'heure. Il faut signaler simplement qu'en un mois, le représentant spécial du secrétaire général s'est rendu à Beni 4 fois. Hier, il a pris la décision pour renforcer ce triangle de confiance, population de Beni, FRDC, MONUSCO, il a pris la décision d'enregistrer à l'endroit des populations de cette région swahilophone de Beni un message en swahili lui-même qui sera diffusé à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble des radios de la région du territoire de Beni pour inciter justement les populations à nous aider à recueillir le renseignement dont parlait tout à l'heure le colonel Bass afin que nous puissions être plus efficaces sur le terrain. Car sans information, sans renseignement, les troupes qui sont fortement présentes en réalité sur le terrain, ce n'est pas un secret de dire que nous avons renforcé graduellement présence militaire pour la porter aujourd'hui au niveau de simplement de la brigade d'intervention autour de 1500 hommes de la brigade d'intervention sur le terrain. La capacité aérienne les semaines précédentes a été multipliée également. Vous savez que tout cela nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la chose, des mouvements sur le terrain, de comment bouge qui et comment, et cela nous permet d'être plus efficaces. Donc nous voulons toujours accroître cette efficacité des troupes de la MONUSCO, mais il faut, et les différents communiqués que vous avez vus dans la semaine, nous appelons à un renforcement de la collaboration FRDC MONUSCO pour encore donner plus de poids, plus de précision, plus d'efficacité sur l'action militaire que nous développons sur le terrain. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette question qui nous tient à cœur. Et c'est pour cela que régulièrement, ou le commandant de la force, ou son adjoint, ou M. Kobler sont régulièrement là-bas pour voir comment développer justement ces stratégies qui sont du domaine militaire et qui devraient porter les fruits dans les semaines, dans les jours qui viennent. Nous allons prendre une deuxième question sur la droite, peut-être ici. Oui, allons-y.
Oui, c'est Patrice Chitera pour Al Jazeera. Je vais revenir au colonel en lui demandant, il y a des gens qui suggèrent qu'il faut peut-être créer des groupes d'autodéfense parmi la population locale. Est-ce que la MONUSCO est prête à adhérer à cette proposition? Mais à Charles aussi, je voulais demander...
On avait demandé une question par journaliste, hein, s'il vous plaît. Non, pour les groupes d'autodéfense, je vais vous renvoyer à ce que le gouvernement a pris comme décision. Et comme journaliste, je suis sûr que vous êtes au courant de la décision du gouvernement. Ces groupes d'autodéfense ne sont pas souhaités ou ne sont pas souhaitables à leur instant, car c'est un travail de militaire, c'est pas un travail de groupes d'autodéfense et vous comprenez que ces groupes d'autodéfense de par le passé ont créé beaucoup de problèmes par rapport à leur durée sur le temps et on a encore des groupes d'autodéfense qui sont devenus aujourd'hui des groupes maïmaï et qui compliquent, j'allais dire, la situation sécuritaire plus sur le terrain qu'elle n'aide à la résoudre. Voilà ce que je pourrais dire, mais peut-être que le colonel a 2 mois à
ajouter. Oui, peut-être, sans pour autant parler de groupe d'autodéfense, je pense qu'on pourrait tourner cette formule-là en parlant de groupe d'alerte précoce, ou en tout cas des entités qui nous permettent de mettre en place un réseau efficient d'alerte qui permettent aussi bien aux forces de défense congolaises qu'à la MONUSCO de pouvoir se projeter immédiatement sur le terrain et prendre en compte la menace sécuritaire contre les populations civiles. Donc ceci peut-être est une proposition à voir, mais comme l'a dit Charles, je pense que c'est un problème de souveraineté et le gouvernement congolais a été très clair là-dessus concernant justement la création de ces groupes d'autodéfense.
Prenons une question là.
Merci, Monsieur Charles. Ma question s'adresse à vous. Sauf une attention de notre part, ce venant vous dit ça de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Aujourd'hui, à New York, se présentent les dossiers sur l'Afrique centrale au Conseil de sécurité. Au Beni, les problèmes beaucoup arament. Et nulle part, les dossiers, l'insécurité qui prévaut, les massacres en RDC, dans la partie nord, dans la partie est du pays. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est parce que c'est mineur, c'est pourquoi on ne veut pas placer ça au menu des discussions ou des rapports aux Nations Unies auprès du Conseil de sécurité. À vous.
Régulièrement, le Conseil de sécurité a discuté de la situation en RDC, de la situation dans la province dans la province nord du pays, dans la situation là-bas sécuritaire de façon générale. Je peux vous dire que si vous regardez le calendrier des activités ou des auditions, des discussions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'ici la fin du mois de janvier, donc dans un mois, en gros, un mois et quelques semaines, il y aura sans doute un débat sur la RDC, ou notamment autour de ces questions-là. C'est des préoccupations qui sont au cœur, j'allais dire, des priorités au niveau du Conseil de sécurité, car je l'ai dit, à plusieurs reprises, le Conseil est revenu sur ce sujet, a abordé ce sujet, a fait des déclarations sur la RDC, sur la situation sécuritaire, et c'est vrai qu'il y a d'autres préoccupations sécuritaires sur le continent, et on ne peut pas aussi les ignorer. Boko Haram et l'ADF organisent... développe des stratégies de guérilla qui sont presque similaires. Et les difficultés que rencontrent les autorités dans la région ouest africaine à contenir Boko Haram sont similaires plus ou moins aux difficultés que l'on rencontre aussi à gérer un peu les problèmes ADF ici. Mais dans notre cas, c'est clair que l'ADF est contenu. Et toutes les indications que nous avons nous disent qu'avec la mobilisation des FRDC, qui sont nos partenaires, de la population locale et des troupes de la MONUSCO, dans quelques jours, on pourrait voir leurs forces presque réduites à une portion congrue en réalité sur le terrain. Mais pour ce qui est de votre question, le Conseil de sécurité reste saisi de la question de la RDC et va devoir, dans les semaines qui viennent, tabler sur ça encore. On va revenir sur la gauche ici. Ici à côté, peut-être.
Paulette Elonga, Africa FM. Ma question, je rejoins plutôt la question de mon confrère de CCTV. Ma question, je la pose au colonel Félix Prosper Basse. Il a dit tout à l'heure que quand la tête n'est pas décapitée, on ne saura pas pallier à cette situation de la guerre qui sévit à l'Est. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour pallier finalement à ce massacre qui sévit d'une manière recrudescente à l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, merci madame pour votre question. Évidemment, je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une dynamique de recherche des meilleures stratégies à mettre en place pour contenir cette vague de massacres dans un premier temps. Deuxièmement, poursuivre, traquer et neutraliser tous les auteurs de ces crimes odieux que je viens tantôt de mentionner. Vous savez très bien que c'est une zone aussi qui est très difficile d'accès pour les militaires, compte tenu de la végétation qui est très touffue dans cette partie du territoire, mais aussi de la rigueur physique qu'on rencontre dans cette zone-là, parce que vous le savez, c'est une zone très montagneuse et il est difficile d'accès pour tout le monde. Même les FRDC, lors des précédentes opérations, étaient obligés de passer à la machette pour se frayer un chemin et mener leurs opérations. Donc nous sommes dans des discussions très poussées avec les FRDC. Comme l'a dit Charles tantôt, nous avons accru nos moyens aussi bien aériens que terrestres. Nous avons accru aussi nos effectifs dans la zone. Nous avons renforcé notre collaboration et notre coopération avec les forces de défense et de sécurité sur le terrain. Nous avons aussi réitéré nos appels aussi bien aux médias aux populations civiles pour que tous ensemble nous puissions mener des actions qui permettent de neutraliser ces criminels-là. Donc je pense que nous sommes dans cette dynamique de recherche de solutions idoines qui permettent vraiment de mettre un terme définitif à toutes ces exactions que nous observons dans le territoire de Béni.
Alors je vois que nous avons des collègues qui nous ont rejoints à Béni, à Goma également. Nous allons nous rendre tout de suite à Goma pour voir, est-ce que nous avons quelques journalistes dans la salle, est-ce qu'on peut prendre deux questions à Goma? Goma d'abord, oui. On ne vous entend pas, hein, Goma. Est-ce que le micro est ouvert à Goma? On a des problèmes de micro à... Oui, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'on peut avoir deux questions à Goma?
Une première question.
C'est
Victor Bigat pour les fonds du journal Hebdo de l'Est. Ma question est posée au colonel Basse. Pourquoi vous nous amenez des drones qui ne s'arrêtent qu'à la récolte d'informations sans pourtant attaquer à la fois l'ennemi? Car dit-on, au grand, Car dit-on au grand mot, grand remède. À vous, à Kinshasa, vous nous entendez?
Oui, tout à fait. Je vais développer, donner quelques éléments de réponse à cette question avant de passer la parole au colonel Félix Prosper-Bar pour un complément. Donc, il faut savoir que la décision d'utiliser les drones en RDC a été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour aboutir à cette décision, puisque c'était une première dans l'histoire des Nations Unies, que d'avoir des drones, les discussions ont été très longues, très ardues, car beaucoup de membres des Nations Unies étaient contre même le fait simplement que les Nations Unies, qu'une mission des Nations Unies sur le terrain puisse avoir des drones. Un compromis a été trouvé et c'est pour cela que vous savez qu'officiellement au niveau des Nations Unies d'ailleurs, on n'utilise pas le terme de drone, nous utilisons le terme plutôt de véhicule aérien sans pilote. Voilà un peu le terme approprié de façon officielle. Et donc, cette décision a été prise, pourquoi ? Pour renforcer les capacités de la mission des Nations Unies en RDC à recueillir le renseignement. Et vous savez que dans la zone de Béni, qui est une zone très forestière, le recueil de renseignements par ces véhicules aériens sans pilote est d'autant plus difficile qu'une fois dans les airs, ce n'est pas toujours évident. Nous ne disons pas qu'ils ne recueillent pas des renseignements, mais nous disons que la physionomie générale de la région rend la tâche beaucoup plus pénible. Ces drones sont en activité. Nous n'avons pas de drones armés, il faut le dire. Et ce n'est pas prévu par le Conseil de sécurité. Je crois que ce n'est pas du tout envisagé dans les mois qui viennent d'avoir des drones armés. Et donc, on se contente de ce que nous avons et qui nous a rendu beaucoup de services. Hein. Les véhicules aériens sans pilote ont rendu beaucoup de services dans la province du Nord Kivu. Dans la bataille contre, c'est vrai, le M23 et dans d'autres situations difficiles que la mission a connues. Et nous allons continuer à les utiliser au meilleur de leurs capacités. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Colonel, quelques éléments additionnels?
Oui, je pense que vous avez circonscrit la question en donnant les réponses qu'il faut. D'abord, il faut distinguer deux types d'aéronefs sans pilote, ceux qui sont armés, ceux qui ne le sont pas. Et deuxièmement, Charles l'a très bien dit, c'est une décision du Conseil de sécurité, donc une décision souveraine, qui a d'ailleurs créé un précédent dans l'histoire du maintien de la paix. Mais nous nous en félicitons au niveau de la MONUSCO dans la mesure où ça a été des outils additionnels qui ont permis au commandant de la force de prendre les décisions nécessaires, les décisions idoines en temps réel, compte tenu justement de la capacité d'acquisition du renseignement, de l'information de manière très globale que ces engins nous ont apporté. Et comme Charles l'a souligné aussi, il ne s'agit pas simplement d'une utilisation strictement militaire ou très strictement sécuritaire. Nous avons vu ces engins nous permettre de sauver des gens sur le lac Kivu. Ils ont d'autres applications à caractère économique, à caractère social, à caractère humanitaire, etc., etc. La liste est longue et non exhaustive, mais nous pouvons vous dire que ça a été, en tout cas pour nous, un apport considérable dans justement la poursuite des efforts que nous sommes en train de déployer pour neutraliser les groupes armés conformément à notre mandat donné par le Conseil de sécurité.
Deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Voilà. Allez-y.
Oui, c'est Norbert Mouindoula. Je pose la question au colonel Félix Bras. Actuellement, colonel, que peut-on retenir des éléments à juristes qui se sont opposés à la reddition et ont attaqué la position des FARDC en Tchéka, donc au Chabon d'Afrique?
Vous parlez de Chabunda, donc on revient un peu vers le sud Kivu. J'ai tantôt indiqué lors de mon propos liminaire les redditions significatives que nous avons observées ces temps-ci, particulièrement dans la région de Chabunda, où, comme vous le savez, les Rahia Mutomboki opèrent depuis très longtemps. D'ailleurs, on peut dire que le territoire de Chabunda est, si vous voulez, le point en RDC où les Rahia Mutomboki sont réellement nés. Donc, j'ai parlé tantôt de Rahia Mutomboki Makambo, j'ai parlé tantôt de Kikuni, qui sont des figures emblématiques dans cette région-là, qui sont des chefs rebelles, des chefs de guerre, qui ont autorité dans cette région, dans la mesure où les zones qui sont sous leur contrôle sont importantes, mais mieux, c'est-à-dire que les gens qui sont avec eux sont extrêmement nombreux, donc il faut notamment se féliciter de ces redditions-là. Il est évident que les opérations se poursuivent. Les FRDC sont en train de mener des opérations dans la région, dans la province du Sud Kivu, soutenue par la MONUSCO, particulièrement dans la région, dans le territoire de Shabunda, mais aussi un peu dans le territoire de Fizi, parce qu'il faut aller contre Yakutumba, qui a commencé à prendre du poil de la bête ces temps derniers, mais aussi les FDLR qui sont descendus du nord. Ça veut dire que à partir du nord du Katanga, il y a aussi des activités FDLR. Donc tous ces efforts mis ensemble nous permettent aujourd'hui d'engranger des résultats qui sont assez importants et qui, je le pense, vont favoriser la reddition d'autres groupes armés pour que, enfin, la province du Sud Kivu aussi connaisse un peu de répit, surtout que nous avons amorcé la dynamique de reddition des FDLR de Kavumu vers Kisangani, ce qui est une chose aussi très importante. Je pense que des efforts sont en train d'être faits, évidemment, peut-être pas à la vitesse que tout le monde souhaite, mais il faut se féliciter quand même de ces résultats encourageants que nous avons engrangés ces temps derniers.
Je le répète souvent, nous avons les membres de l'équipe pays humanitaire développement ici et ils participent au nom de la conférence des Nations Unies. Et donc les questions sont les bienvenues bien sûr pour le colonel Félix Prosper Basse, mais n'oubliez pas que c'est une conférence des Nations Unies. Voilà. Nous allons prendre une question au fond, un peu plus au fond quand même, parce qu'on prend souvent ceux qui sont à côté. Donc présentez-vous et puis donnez-nous une question s'il vous plaît. Une question.
Merci pour la parole, c'est Symphorien Katumba, journal explorateur. J'ai une préoccupation pour le directeur Charles Bambara. La République démocratique du Congo a remis le fanion de la francophonie de 2 ans en exercice au Sénégal pour la bonne continuité qui demande de respecter les normes établies. La MONUSCO ayant un coup d'œil et suivi la loupe pour le bien fondé de la situation en question, fait quelle lecture? Je vous remercie.
Quelle lecture la MONUSCO fait du flambeau remis à la francophonie au Sénégal? Nous avons un mandat très clair. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mandat de la MONUSCO, mais c'est vraiment protéger les populations congolaises, à contribuer à la stabilisation du pays, contribuer à l'état de droit, au développement, etc. La francophonie, c'est, en tant qu'observateur étranger, je peux analyser ça, mais en tant que porte-parole de la MONUSCO, ça rentre pas dans les objectifs de la MONUSCO en tant que tel, donc je me réserverai de commenter ça ici. Nous allons prendre juste à côté une question.
Clavier Yanadiakou, Direct TV. J'aimerais poser une question à M. Charles Bambara. Le gouvernement de cohésion nationale a été rendu public et nous voulons savoir quelles recommandations que la MONUSCO formule pour que les conditions sociales soient améliorées.
C'est une question de souveraineté nationale. Si vous n'avez pas eu le communiqué qui a été diffusé lorsque le gouvernement a été publié, je crois qu'à la sortie, le service du porte-parole de la MONUSCO va vous distribuer le communiqué, mais je rappelle simplement que M. Kobler, dans ce communiqué, dit qu'il assure le nouveau gouvernement de son soutien et de son étroite collaboration. Fin de citation. Question à Goma, peut-être, hein, parce qu'ils nous ont rejoints en retard. On peut peut-être prendre deux questions.
Inga Paterne
de AP. Moi, je voulais poser la question au porte-parole de la MONUSCO, M. Charles Bambara. La question se porte sur quelle est la plus grande priorité que vous avez entre les FDLR et les ADF Nalu pour le moment. Merci.
C'est clair que la priorité numéro une, c'est vraiment les ADF. L'effort de la mission est vraiment consacré entièrement pour l'instant aux côtés des FRDC à réduire autant que faire se peut la force de nuisance de ces criminels que sont les ADF, et nous pensons pouvoir y parvenir. Et vous savez que l'autre priorité que nous avons dès début janvier, et je peux dire que nous sommes à jour J-23 pour les FDLR, c'est de les neutraliser à partir du 2 janvier si le processus de transfert qui est déjà amorcé vers Kisangani ne se poursuit pas. Nous espérons à l'heure actuelle que ce processus va se poursuivre. Nous avons au dernier pointage d'il y a deux jours 141 FDLR et des membres de leur famille qui sont déjà à Kisangani. Nous espérons voir donc ce flot se poursuivre le plus rapidement possible, car nos camps de cantonnement tant au nord Kivu qu'au sud Kivu sont pour l'instant vides. Et nous savons que d'autres FDLR sont dans la région et nous voulons donc qu'ils viennent rapidement pour qu'on les transfère là où se doit, avec bien sûr notre partenaire qui est le gouvernement de la RDC. Et donc c'est clair, priorité numéro 1 pour l'instant ADF, priorité numéro 2 à partir du 2 janvier justement FDLR. Nous restons toujours à Goma pour une autre question.
Bon, vous avez beaucoup insisté, j'espère que votre question sera pertinente.
Oui, je vais poser la question à Charles Bambara, c'est Patrick Félix Abel de Manuel Télévision. Dans l'intervalle des 2 mois, il y a plus de 250 personnes qui ont été tuées dans la région du Grand Nord, du Nord Kivu. Alors Charles Bambara, ne fallait-il pas se remuer du couteau sous la plaie, vous partenaire de la RDC, la MONUSCO, à s'asseoir ensemble, chercher à trouver des solutions palliatives au lieu de lancer des messages de compassion?
Je crois que Goma ne nous avait pas rejoint en début au début de cette conférence de presse. Votre question a été l'objet de la toute première question ici à Kinshasa par un collègue journaliste qui était de quel journal encore ? CCTV. Et nous avons passé d'ailleurs 10 minutes à lui donner toutes les explications. Peut-être rapidement, colonel, un résumé en 2-3 minutes.
Oui, je pense que d'abord, ces messages de compassion sont nécessaires dans la mesure où ces condoléances sont non seulement sincères, mais elles sont profondes, compte tenu de notre mission qui est de protéger les populations civiles. Donc, voulons encore une fois exprimer toute notre solidarité avec les populations de Beni. Nous voulons aussi faire comprendre à ces populations que nous devons maintenir ce triangle de confiance qui a été scellé par le sang des casques bleus, le sang des populations innocentes, mais aussi le sang des vaillants soldats congolais qui ont tous œuvré pour que l'ADF soit neutralisé. Évidemment, comme nous l'avons dit, des efforts supplémentaires sont en train d'être mis en œuvre et des mesures de coordination beaucoup plus étroites sont en train aussi d'être expérimentées sur le terrain entre la force de la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi avec les autorités congolaises. Et nous pensons que c'est tous ensemble, qu'en œuvrant tous ensemble, que nous pouvons venir à bout des ADF, parce que l'ADF aujourd'hui est un problème préoccupant, préoccupant pour les populations civiles, préoccupant pour les forces de défense et de sécurité congolaises, mais préoccupant aussi pour la force de la MONUSCO dont la mission est de protéger les populations civiles. Donc nous exprimons encore une fois nos condoléances les plus vives et nous demandons à ces populations de nous accorder tout leur soutien, toute leur confiance, pour qu'ensemble nous puissions mettre un terme de manière définitive à cette série de massacres qui est inacceptable, qui est perpétrée de manière lâche contre des populations innocentes de la région de Béni. Ensemble et tous ensemble, nous pouvons y arriver. Nous l'avons fait contre le M23, nous avons affaibli l'ADF ensemble. Eh bien, il faudra terminer le travail ensemble et nous sommes tous déterminés à y aller et à y aller ensemble.
Voilà, le Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, nous a rejoint. Nous allons lui donner la parole car, monsieur Martin Kobler, nous avons eu une série de questions sur Beni, dont la toute dernière. La toute première question également était sur Beni. Que fait la MONUSCO sur le terrain? On entend beaucoup de communication sur la condamnation des violences, mais qu'est-ce qu'on fait réellement sur le terrain? La parole est à vous.
Merci bien pour la parole. Je m'excuse d'être trop tard parce qu'on avait aujourd'hui la cérémonie pour la journée mondiale des droits de l'homme avec la vice-ministre pour les droits de l'homme. En ce qui concerne Beni, je crois que le porte-parole militaire a élaboré sur les actions militaires. Moi-même, je fais la navette. La semaine dernière, j'étais 2 fois à Beni. Une fois accompagné par les ambassadeurs des P3. J'ai l'anglais, l'ambassadeur du Royaume-Uni, des États-Unis et les collègues de l'ambassade de France pour discuter avec les militaires, avec la brigade, avec la société civile, avec l'administrateur du territoire la situation. Moi-même, j'ai insisté de visiter les places du massacre J'étais à Eringeti et j'ai parlé avec la population pour là, pour, qui aussi nous a, a posé, ont posé des questions. Alors, qu'est-ce que la MONUSCO fait? Il faut dire qu'on a 8000 FRDC par là, on a 1500 de la brigade dans l'environnement. Mon message, c'est le suivant. Il faut rétablir et travailler sur le triangle de la confiance entre la MONUSCO, les FRDC et la population. La population est très importante ici. On ne peut pas mener une guerre et vaincre contre la population. Je vous raconte une histoire. On avait, il y a deux jours, avant-hier, un hélicoptère de la MONUSCO qui voulait atterrir à Oicha, à un hôpital, pour évacuer deux garçons qui ont été gravement blessés pendant les massacres. Mais une partie de la population, ils ont jeté des pierres sur l'hélicoptère. L'hélicoptère n'a pas pu atterrir. Les deux garçons sont morts aujourd'hui. Ça ne marche pas. Et j'ai lancé un appel. Un appel, même en swahili, hier, à la population, à Beni, de nous soutenir. Il faut coopérer. Ça ne marche pas que les victimes qui sont gravement blessées ne peuvent pas être évacuées par les hélicoptères de la MONUSCO. Ça ne marche pas. Il faut les laisser atterrir. Il faut les sécuriser même. Nous sommes dans le même côté. Nous voulons combattre ensemble. Les FRDC, la MONUSCO et la population. Et c'est mon message aujourd'hui de vraiment alors nous soutenir, population de Beni et du territoire, afin de terminer ces atrocités qui sont par là. Si on a des attaques asymétriques, ce n'est pas une guerre comme contre le M23. On a pris des collines, une colline à l'autre. C'est quelque chose d'autre. Ce sont des terroristes. Ce sont des criminels. C'est un combat asymétrique qui est très très difficile à gérer. J'ai travaillé en Afghanistan, j'ai travaillé en Irak, je sais vraiment qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une tactique de guérilla avec un combat asymétrique. On ne peut pas gagner ce combat rapidement, mais ce que nous devons faire, protéger la population conjointement avec les FRDC, ce triangle de la coopération, ce triangle de la confiance entre la MONUSCO, les FRDC et la population, c'est extrêmement important. Parce que seulement ensemble, ces trois éléments peuvent être victorieux, peuvent gagner. Merci.
Autre question, on va prendre une question ici. Il y a une dame au fond, mais
voilà,
il y a un micro de ce côté? Non. Présentez-vous alors, en attendant que le micro aille de l'autre côté. Allez-y.
Merci, moi c'est Flavien Moussas pour le compte des Planètes Télévision. Mais c'est le représentant spécial sur le plan diplomatique que le stratégique et la MONUSCO a créé avec la Defnalu. Parce que sur le plan diplomatique avec l'œuf de l'air, vous avez fait. Maintenant avec la Defnalu, finalement, qu'est-ce que vous allez faire?
Voilà, sur le plan diplomatique, il faut avoir les relations avec tous les partis. C'est aussi la communauté Nandé, ce sont les Ougandais. J'ai rencontré plusieurs fois les autorités ougandaises. Je me déplace à Kampala, encore une fois, demain matin. C'est aussi une question de l'équipe des envoyés spéciaux. Je suis en contact avec Saïd Djinnit, l'envoyé spécial du secrétaire général, qui couvre les problèmes régionaux. Il faut être en contact, il faut utiliser tout le monde, de parler avec les homologues. Il faut convaincre tout le monde que la stabilité est mieux et meilleure que l'instabilité. On a toujours des gens qui sont convaincus qu'ils peuvent gagner plus avec l'instabilité, pas avec la stabilité. Ça ne marche pas d'un jour à l'autre. Vous avez raison, ce sont des mesures diplomatiques, politiques, mais c'est la force de la conviction. La stabilité est mieux que l'instabilité.
Une question au fond avant d'aller à Goma, oui.
Christiane Ekambo du journal Africa News. Ma question s'adresse à M. Martin Kobler. Je voulais dire que cette année a été l'année de tous les enjeux par rapport à votre déploiement, tantôt à l'Est, tantôt ici à Kinshasa. Il y a eu aussi l'installation du brigade d'intervention. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes satisfait ou bien vous êtes déçu avec comment se termine cette fin de l'année avec les attaques, les atrocités de Béni et puis le défi de l'ultimatum lancé au FDLR. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous êtes satisfait ou bien vous êtes vraiment déçu?
Voilà. Je suis satisfait et je suis non satisfait en même temps. Pas déçu. La dissatisfaction que j'ai sur... alors, ça m'encourage d'avancer en 2015 maintenant. Je suis satisfait avec ce qu'on a atteint. Nous avons des îlots de stabilité maintenant, 6 îlots de stabilité. On a une amélioration évidente. À l'est de la RDC, si vous êtes aujourd'hui à Goma, vous pouvez prendre la voiture sans être empêché. Vous pouvez aller jusqu'à Beni, jusqu'à Eringeti. Vous avez le transport des produits agricoles de Pinga à Goma. Les haricots verts de Pinga et de cette région très très riche sont transportés à Goma sur le marché. Les prix sont plus bas maintenant. Ce ne sont pas les produits de l'extérieur. L'aéroport de Goma va être maintenant étendu à 2650 mètres. C'est un projet allemand. Ça va être inauguré. Vous aurez bientôt, à 2015, vous aurez des produits agricoles ici sur le marché transportés par les avions à Kinshasa. On m'a dit que c'était comme ça auparavant, mais ça a arrêté. On va le reprendre. Je suis satisfait avec ce développement. Mais je ne suis pas satisfait avec les autres choses à dire. Je ne suis pas satisfait qu'on a maintenant presque 250 gens qui ont été tués par des terroristes des ADF. On va les combattre. Je ne peux pas garantir le succès total. Personne ne peut le faire, ni les FRDC, ni la MONUSCO, ni la brigade. On ne peut pas le garantir. Et c'est pas le succès, c'est l'effort qui compte. Il faut avoir 100% effort. Peut-être pas 100% succès, mais 100% effort. Et c'est pourquoi nous combattons pour les opérations conjointes avec les FRDC pour atteindre ces 100% effort. Si ça se transfère dans 100% succès, alors ça c'est pas sûr. Personne ne peut garantir. Nous allons l'année prochaine maintenant, le délai de 2 janvier, on est en train de préparer les opérations militaires contre les FDLR. Et c'est quelque chose au début de l'année 2015, alors c'est quelque chose qui nous préoccupe parce que le délai maintenant est passé et le 2 janvier c'est la fin de cette période de la reddition volontaire. On avait un succès partiel. Je suis satisfait avec le succès partiel, mais ce sont seulement 13% des combattants des FDLR qui se sont rendus à Kanyabayonga, Valungu et à Kisangani. Je ne suis pas satisfait avec le reste, c'est combien? 77.
Ouais,
77%. Alors, c'est le décret de ma satisfaction, peut-être. 13% vie, 77% non.
87%. Donc, on va prendre une... je suis sûr qu'à Goma, des journalistes brûlent l'envie de vous poser une question également. On va prendre peut-être une question à Goma. Question à Goma.
Voilà. Proximité géographique, là. Allez-y.
Merci beaucoup. Je m'appelle Gaïus Kowene. Je suis le correspondant de l'Agence de presse du Canada-Toulou. Ma question s'adresse à Martin Robler. Récemment, vous avez été avec les représentants des pays membres du Conseil de sécurité à Béni. Quel impact vous pensez que cette visite peut avoir eu sur la situation sur le terrain?
La visite que vous avez faite à Béni avec les...
Voilà, je crois que c'est très important, premièrement, de montrer la solidarité avec la population. Comme j'ai dit, on a beaucoup de défis avec la population. Parce que ce sont aussi des forces c'est seulement une partie de la population. Si moi-même, je parle avec les familles des victimes, ils nous demandent de rester. Ils ne nous demandent pas de partir, parce que c'est pas logique. Un des représentants, une partie de la société civile avec qui nous discutons, il a dit, alors vous allumez le feu. Vous-même, MONUSCO, allumez le feu. parce que c'est votre raison d'être ici. Vous ne voulez pas partir, vous voulez pérenniser votre existence de votre présence ici. Alors, c'est vous derrière ça, derrière tout ça. Alors, c'est naturellement des salades. Alors, c'est pas correct. Nous voulons partir, nous voulons protéger la population là et l'interaction avec la population. Alors, c'est la première chose. Interaction avec la population, de clarifier nos positions. Nous ne sommes pas là pour pérenniser notre présence. Nous sommes là conjointement avec les FRDC, alors de résoudre un problème, le problème de terrorisme, le problème d'être là, de parler avec une population terrorisée. Deuxième, c'est aussi intéressant, c'était intéressant la semaine dernière de visiter Béni avec les ambassadeurs ici. Je crois que c'est très important, c'est 2000 km d'ici de Kinshasa. La communauté diplomatique le lit dans les journaux, les atrocités dans les journaux. Mais de voir avec nos propres yeux la colère, la frustration. Et je vous dis, nous partageons la colère, nous partageons la frustration. Mais ce n'est pas une solution. Il faut discuter ensemble. Et ce sont les messages qu'on a transportés à Béni, pas moi seulement, mais aussi par la communauté internationale. Troisième point, c'est la collaboration avec les FRDC. Il faut être beaucoup, beaucoup mieux sur ça. Ça ne marche pas si les FRDC font une chose et la MONUSCO fait l'autre chose. Il faut avoir du renseignement conjoint, il faut avoir les plans militaires conjoints et il faut avoir les opérations conjointes. Pas les FRDC à gauche et la MONUSCO à droite. Ça ne marche pas, il faut aller ensemble avec les FRDC dans le domaine de renseignement, planification et opération.
On prend une dernière question. Vous avez eu encore 5 minutes, Monsieur Kobler.
Oui,
on prend une question.
Allez-y.
J'ai envie de l'apprendre à Goma. Hein. On a posé pas mal de questions ici. Goma, vous avez l'honneur de nous donner la toute dernière question. Je pense qu'elle sera là-bas. Allez-y.
Alors, au fond, à droite, là, derrière, oui, je suis Charlie Kassereka, journaliste indépendant et correspondant de Sopken TV au Canada. Ma question, je l'adresse à M. Martin Kobler. FDLR est une force négative comme les ADF. Mais vous vous préparez à conséquence pour combattre les FDLR et vous ne les faites pas pour les ADF. Pourquoi cette différence?
Voilà, c'était une priorité premièrement décidée par le gouvernement. Il voulait combattre, avoir des actions militaires après les actions contre les M23, contre les ADF. Et numéro 3, c'est FDLR. On a deuxièmement la décision de la CRGL et SADC, alors d'avoir un processus politique ici, un processus politique qui leur donne, les FDLR, qui leur donne la possibilité de volontairement rendre, volontairement désarmer. Et c'est ce qu'on a accepté. Alors ce sont les décisions pas de nous, parce que nous avons notre mandat. Notre mandat dit clairement, c'est le FDLR qu'il faut combattre maintenant. On a dit toujours, depuis le début de l'année, alors il faut avoir les FDLR comme deuxième priorité. Parce qu'après les M23, c'est logique, alors de combattre les FDLR, c'est un mouvement génocidaire qui est dirigé politiquement, qui est dirigé aussi militairement envers le Rwanda. Une menace par Rwanda militairement maintenant, mais c'est plus ou moins alors une menace psychologique, une menace politique pour le Rwanda, et ils terrorisent la population. Ils commettent des violations de droits de l'homme chaque jour. Ils dominent des territoires. C'est le territoire de la RDC. On doit avoir un administrateur territorial par là et pas un administrateur territorial des FDLR. Nous soutenons la restitution de l'autorité de l'État et pas la restitution des groupes armés ici. Mais c'est la décision autonome du gouvernement de déterminer, numéro 2, après le M23, c'est le ADF. Et on avait, depuis le début de l'année, on avait la brigade d'intervention au nord, au grand nord, ici, avec 1500 un bataillon qui ont essayé de régler le problème et de combattre avec les FRDC. Et les FRDC, ils ont combattu. On avait beaucoup de morts des ADF. Mais le système, c'est pas encore fini maintenant. C'est pas encore fini et l'ennemi a changé la tactique. C'est pas maintenant une guerre traditionnelle. C'est une guerre, comme je dis, asymétrique. Et il faut réagir avec d'autres moyens ici. Et c'est beaucoup plus difficile qu'avoir une guerre traditionnelle. J'encourage tout le monde, encore une fois, 100% effort dans le combat contre les FTL, contre les ADF, afin que nous puissions avancer dans le combat au mois de janvier contre les FTLR.
Voilà, merci Goma, merci Kinshasa, et à la semaine prochaine. Merci.